On accueille en tout démarrage Christiane Carlu qui va nous parler de la Commune de Paris et le luxe communal. Elle vous dira pourquoi on dit luxe communal plutôt que art durant la Commune, mais ça va le dire. Et puis Francis va faire une toute petite introduction du propos de Christiane.
La commémoration du 150e anniversaire de la Commune de Paris, on a l'habitude, nous, groupe Commune de Paris, d'organiser une journée. Une journée sur des thèmes qui étaient des thèmes porteurs de la Commune de Paris. On a eu l'autogestion, on a eu l'histoire des anarchistes, chaque année, on a organisé une réunion thématique et là, on va travailler ensemble sur art, anarchie et émancipation. Alors, on a tout de suite pensé à introduire avec le lien sur la Commune, même si on va aller sur l'actualité de l'art et de l'anarchie. Et Christiane, qui a créé un site internet qui s'appelle Le Luxe Communal et dont vous voyez la page d'accueil derrière, vous allez voir, ce site, il est assez passionnant, vraiment professionnel, et il donne envie de découvrir ce luxe communard. Et ensuite, elle nous dira deux mots sur un colloque. Elle aussi, ils ont, dans le Berry, animé la Commune en acte, nouvelle approche historique de la Commune de Paris 1871. Et là aussi, on retrouve Proudhon, on trouve des gens qu'on connaît. Donc, Christiane, de quoi s'agit-il, le luxe communal? C'est quoi ça? C'est pas une forme d'oxymore? C'est quoi ce...
Bonjour. Le luxe communal, pour moi, c'est un oxymore, mais en fait, ça va être l'objet de la conférence, parce qu'effectivement, ça demande un développement. Je ne vais pas pouvoir donner les points en deux minutes. Je vais peut-être introduire ce site que vous pourrez voir sur luxecommunal.com. En fait, c'est un site sur lequel je travaille depuis 10 ans, qui, en fait, reprend les projets de la Commune, les projets réalisés, non réalisés et extrapolés. Alors, dans les projets réalisés, il y a effectivement toutes les réalisations de la Commune avec le journal officiel, etc. Dans les projets non réalisés, il y a des propositions de concrétisation de projets qui n'ont pas été réalisés, comme par exemple le monument à la guerre de Prusse qui a été fait par Courbet à partir de la fonte des canons allemands. Donc il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas pouvoir vous en parler longtemps parce qu'on a un peu serré dans le temps. En tout cas, je vous montre ce site. Vous y allez donc sur luxecommunal.com et je vous donne juste très rapidement un petit mode d'emploi. Donc là, vous entrez par la porte, vous vous baladez dans le site et dès qu'une chose se passe en rouge, ça veut dire que c'est un lien. Donc là, vous allez pouvoir rentrer dans un site qui est vraiment gigantesque et dans lesquels vous allez pouvoir vous perdre. Mais si vous vous perdez, vous pouvez aller sur l'architecture du site, où on voit tous les étages. En fait, le site, c'est le café de Napoléon Gaillard, qu'il avait monté dans la ville de Carouge en Suisse après la Semaine sanglante. Et donc, c'est Napoléon Gaillard qui va nous accueillir. Et il y aura d'autres personnages comme Thiers, qui est dans un endroit un peu caché, qui fait des choses un peu répréhensibles. Et puis, il y aura effectivement Blanqui, d'ailleurs qu'on va réussir à faire évader puisqu'il a été arrêté la veille de la Commune de Paris, et dans les projets extrapolés, il y a l'évasion de Blanqui qui va se retrouver sur... Oui, d'accord, j'ai d'accord. Donc voilà, alors vous pourrez aller là, et puis... donc là, c'est toutes les présentations qui donnent tous les enjeux du projet. Et puis là, vous avez la biblio, toutes les communications, etc., etc. Donc, je vais arrêter là parce que je n'ai pas tendance à être très courte. Alors, sinon, on l'a en fait organisé il y a un an. On l'a organisé dans la ville d'Issoudun et de Bourges. Et en fait, on a fait venir un certain nombre d'historiens, comme Jean-Louis Robert. Qui est-ce qu'on a fait venir déjà? Enfin, on a fait venir pas mal de gens. Je suis désolée, je suis un peu stressée. Il y a Delermoz, Le Prince, Quaretti, Florence Gautier, Ludivine Bantini, Alou Colombani, enfin, il y a plein de...
Alors, ce luxe communal.
Voilà. Le luxe communal, nous sommes partis. Attendez, j'arrive. Pim, pam. Voilà. Qu'est-ce que le luxe communal ? Archéologie et héritage. Je vais devoir lire, c'est beaucoup de citations. Je suis désolée, je sais que c'est pas toujours agréable, mais je peux pas paraphraser des gens qui ont dit les choses mieux que moi, en fait. Donc, le 13 avril 1871, environ un mois après le début de la Commune de Paris, sur l'invitation de Gustave Courbet, a lieu à l'école de médecine une réunion pour la création de la Fédération des artistes. Eugène Potier fait lecture d'un rapport qu'il a réalisé à la suite d'une commission préparatoire qui s'est tenue la semaine précédente et dont la conclusion est la suivante. Enfin, par la parole, la plume et le crayon, par la reproduction populaire des chefs-d'œuvre, par l'image intelligente et moralisatrice qu'on peut répandre à profusion et afficher au mérite des plus humbles communes de France, le comité concourra à notre régénération, à l'inauguration du luxe communal et aux splendeurs de l'avenir et à la République universelle. Le luxe communal, en fait, est ressorti des tiroirs de l'histoire grâce à un livre de Christine Ross qui s'appelait « L'imaginaire de la commune » et qui a été publié en 2015. Nous allons enquêter, en fait, sur les écarts entre la manière dont il était entendu en 1871 et ses interprétations contemporaines, qui sont assez différentes. La Fédération des artistes n'a pas du tout inventé la formule. Deux mentions apparaissent dans la presse en 1863 et 1865. Malheureusement, la Fédération des artistes n'en a pas précisé la définition. Le luxe communal, ça sonne comme un oxymore, mais ça dépend comment on l'entend. D'une part, on a le luxe, d'autre part, on a le communal. Le communal, est-ce que c'est celui d'une commune, d'une municipalité, ou est-ce que c'est celui de la Commune de Paris ? C'est pas du tout pareil. La notion de luxe, par contre, qu'on va explorer maintenant, est a priori radicalement opposée aux valeurs de la Commune de Paris. C'est un marqueur intemporel d'appartenance à une classe sociale supérieure, de réussite, de richesse et de dépassement des contingences communes. Ici se heurtent des valeurs parfaitement contradictoires. Le superflu versus le nécessaire, la rareté versus l'abondance, la cherté versus la gratuité et l'élitisme versus l'égalité. Aussi, le communal dans le contexte de la commune a-t-il un léger parfum d'oxymore. Les antécédents historiques du luxe et du luxe communal. Nous allons explorer comment, au XVIIIe siècle, la querelle du luxe a marqué le passage de l'argument moral à l'argument économique. Comme en 19e s'insinue un glissement sémantique, un élargissement du terme « luxe ». Saint-Simon, Fourier, Cabet et Gaudin vont revendiquer chacun leur manière le luxe pour tous. Comment la notion de luxe communal apparaît vers 1840 ? Puis celle de somptuosité municipale, les deux notions ont cohabité sémantiquement avec le luxe communal pour pratiquement se confondre. Et comment les auteurs contemporains se sont réappropriés le luxe communal. Le débat du luxe au 18e, c'est parti. La condamnation du luxe est récurrente dans l'histoire des idées politiques et morales. Platon, Tertullien, Fénelon condamner le luxe qui corrompt les mœurs. Puis l'économie politique voit le jour au 18e. Elle va remplacer dans le jugement sur le luxe le point de vue moral par le point de vue économique dans une société dominée par le commerce et l'argent. Le luxe au 18e se déplace sur le terrain de son exploitation commerciale et s'impose progressivement pour ses partisans comme un facteur de prospérité sociale. Il participe à la circulation des richesses et à l'essor du commerce, à l'accroissement des richesses. La consommation des biens du luxe est revendiquée comme remède à la pauvreté en procurant du travail aux pauvres. Ça va être un argument récurrent au XVIIIe. Les arts, dans ce contexte, constituent la part éminente du luxe. Et c'est parti. Montesquieu. Alors, les choses là, les petites, c'est les références en fait des textes sur lesquels je me suis appuyé. Si l'on se contentait, c'est Montesquieu qui parle, de fabriquer des produits nécessaires, l'État s'affaiblirait, les rapports humains se réduiraient à rien, et tout le monde vivrait misérablement. Pour lui, pour Montesquieu, ce sont les arts qui créent la valeur, notamment ceux qui renvoient au luxe et au superflu. Et pour qu'un homme vive délicieusement, il faut que 100 autres travaillent sans relâche. Mandeville, je cite, « Dans un pays où les hommes sont occupés à travailler la terre, à faire la guerre ou à produire des biens dans des manufactures, l'État aura tout intérêt à employer les inactifs à des ouvrages de luxe. Une telle occupation est plus saine et plus profitable que l'oisiveté. Elle permet de retenir les hommes sur le lieu de domination. » Ça colle.
Et notre ami Voltaire.
Et notre ami. Ah non.
Ah, c'est après.
Mince. Encore, ouais. Attends, il y a un ch'tuc. Ouais. Voltaire. Le luxe est un facteur de prospérité. Le luxe général est la marque infaillible d'un État puissant et respectable. Seul le luxe d'un homme opulent fait vivre les pauvres. À l'époque, Rousseau et Quesnay, à l'inverse, posent implicitement l'inégalité au fondement de la société et condamnent le luxe avec des arguments à la fois moraux et économiques. Rousseau. Oui, c'est que j'en ai sucré, en fait. Rousseau met en cause l'indifférence générale au sort des producteurs. Je cite, « On évalue les hommes comme des troupeaux de bétail. La futilité des empires entraîne la dissolution des mœurs et la corruption du goût. Ceux qui nous guident sont les artistes, les grands, les riches, et ceux qui les guident eux-mêmes et leur intérêt ou leur vanité. En outre, le luxe et le mauvais goût sont inséparables. Partout où le goût est dispendieux, il est faux. » François Quesnay. La France produit trop de biens de luxe au détriment des produits agricoles qui constituent la véritable richesse d'un pays. Je cite, « Depuis longtemps, les manufactures de luxe ont séduit la nation. Nous nous sommes livrés à une industrie qui nous était étrangère et on y a employé une multitude d'hommes dans le temps que le royaume se dépeuplait et que les campagnes devenaient désertes. Les lois de l'économie politique exigent au contraire de produire des biens de première nécessité, puis d'échanger les surplus comme des biens de luxe en provenance de l'étranger. » C'est bien comme... Élargissement de la notion de luxe au 19e. Donc au 19e, comme je disais tout à l'heure, la définition du mot luxe va s'élargir de la notion de luxe pour tous. Saint-Simon décrit une nouvelle organisation sociale fondée sur la construction d'un système industriel et scientifique qui a pour but d'améliorer le sort de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. Il veut transformer les rapports sociaux au profit des droits de chacun. Les circonstances actuelles sont favorables pour rendre le luxe national. Le luxe deviendra utile et moral quand ce sera la nation entière qui en jouira. Pim. Fourier. Il pose le modèle d'une société de luxe et d'abondance fondée sur le développement libre de 12 passions qui régissent les activités et le comportement des hommes. Il annonce l'avènement de l'harmonie universelle des humains entre eux et avec la nature. Le luxe, qu'il appelait lui le luxisme, constitue une richesse collective, issue d'un travail collectif, source d'un accroissement général des richesses. Le luxe interne implique la vigueur corporelle et le raffinement des sens. Le luxe externe est une richesse de vie, c'est-à-dire d'activité. L'éducation intégrale qu'on va beaucoup retrouver dans la commune contribue au développement intellectuel et physique de l'enfant qu'on retrouvera dans le lien et il tient donc une place majeure au fondement de la commune. Mais ça, je l'ai déjà dit. Cabet. Il dépeint une république dans laquelle nous nous sommes sagement imposés trois règles fondamentales. La première, que toutes nos jouissances soient autorisées par la loi ou par le peuple. La deuxième, que l'agréable ne soit recherché que quand on a le nécessaire et l'utile. La troisième, qu'on admette d'autres plaisirs que ceux dont chaque icarien, c'est-à-dire chaque sujet de sa société idéale, peut jouir également. Ça va pas trop vite ? Je flippe. J'ai peur de pas avoir le temps de tout lire. Puis je suis pas.
Alors, Cabet ? Non,
Godin. Donc, Godin est acquis depuis 1842 aux thèses fourriéristes. Il a d'ailleurs essayé de monter un phalanstère au Texas et il a perdu toute sa fortune. Donc, il a décidé en 1858 de créer son palais idéal, son palais social, le Familistère de Guise, qui se trouve dans l'Aisne, qui est destiné aux ouvriers de son usine. Le luxisme de Godin, de Fourier, pardon, est remplacé par ce qu'il appelle les équivalents de richesse. Donc, les conditions dans lesquelles vivaient ces ouvriers, conditions confortables de logement, école avec pédagogie attrayante et intégrale, cours du soir pour adultes, théâtre, bibliothèque, conférences sur la coopération et l'économie sociale, économat à prix peu élevé avec redistribution des bénéfices, création d'un système de protection sociale avec caisse de secours. Le Familistère accueillera jusqu'à 1300 personnes. Des auteurs que vous connaissez, comme Blanqui, Proudhon, Marx, Bakounine et Kropotkin, ne s'engageront absolument pas sur cette voie du luxe élargi. Ils fonderont les concepts de la critique sociale sur ces acceptions fondamentalement inégalitaires. Le luxe pour tous va cependant essaimer et on le retrouve à l'œuvre avec le luxe communal et les principes de la Fédération des artistes. Et là, je bois un coup.
C'est pas dans le...
Non, je sais, j'avais pas le temps normalement. Le luxe municipal. Avant le luxe communal, il y a le luxe municipal. Il apparaît donc dans la presse à partir de 1840. Le luxe municipal renvoie en fait à la politique culturelle et architecturale d'une municipalité, les bâtiments, les monuments, les événements, c'est-à-dire les expositions, les théâtres, les concerts. C'est ça le luxe communal en 1871. Et je suis désolée, mais ce n'est pas ce que dit Christine Ross. Voilà, c'est le point de vue. Les articles publiés à cette époque sont souvent critiques. Tentation pour les édiles de se prendre pour des augustes, d'utiliser l'argent public pour se tailler aux frais de la municipalité une renommée et de sacrifier à cette satisfaction puérile des intérêts infiniment plus respectables et des besoins plus pressants. Sont évoqués, d'ailleurs dans la presse, des détournements des ressources municipales, des réceptions somptueuses organisées par les édiles aux frais des contribuables. Le luxe communal. Non. Alors, deux mentions du luxe communal apparaissent. La première dans la presse en 1863 et la deuxième en 65. La première, c'est l'économiste Jean-Édouard Horn qui identifie très strictement le luxe communal au luxe municipal. Les dépenses de théâtre communal, théâtre, monument, tendent partout à absorber une part de plus en plus large du budget. La situation n'est pas passionnante, pour tout dire. Mais grosso modo, c'est l'idée que le luxe municipal, c'est bien le luxe communal à cette époque-là. Et la seconde mention est d'Émile de Girardin, que vous connaissez peut-être plus, journaliste et homme politique, qui disait « Où serait le mal ?» lorsque, sans aucune loi somptuaire et par l'unique influence de l'impôt, ramené à l'équité et à l'unité, il y aurait à la fois moins de riches et moins de pauvres, moins de disproportion entre le château et la bauge. Où serait le mal lorsque le luxe individuel tendrait à se restreindre et le luxe communal à s'étendre ? La somptuosité municipale. Dans le dictionnaire, en 1871, la somptuosité, c'est vraiment un strict synonyme de luxe. Donc Philippe Burti, qui était un très grand critique à l'époque, d'ailleurs qui a fait partie de la Fédération des artistes, utilise cette terminologie alternative. Il est cependant regrettable que l'édilité ait eu des arrière-pensées d'économie, là où la somptuosité municipale seule devrait triompher. Le luxe communal est la Commune de Paris. Le luxe communal a connu ces dernières années, grâce à Christine Ross, une certaine veine critique et s'est retrouvé dans un élan vertueux, enthousiaste et très extrapolatif, investi des valeurs de la Fédération des artistes dont il n'était pas porteur en 1871. Le luxe communal, comme le luxe municipal ou la somptuosité municipale, s'obstine donc dans les usages de 71 à renvoyer aux politiques municipales en termes d'architecture, de monuments et d'événements dans l'espace public. Le contexte de la déclaration de Potier a certainement incité à colorer des valeurs de la Fédération des artistes, qu'on pourra rassembler ainsi, les valeurs de la Fédération des artistes. Art pour tous, émancipation par l'art, déhiérarchisation entre créateurs et producteurs, artistes et artisans, art majeur et art mineur, autonomie à l'égard de l'État, gestion par les artistes de leurs propres intérêts, coopération entre producteurs pour produire des objets beaux et de bonne qualité, ça on va le retrouver beaucoup parmi les héritiers, importance de la notion de plaisir dans le travail, pédagogie attrayante et intégrale, donc qui nous vient directement de Fourier. Le rapport de Potier n'indique pourtant que la généralisation du luxe communal, c'est-à-dire des politiques municipales, favorisant et développant l'accès pour toutes et tous à l'art et à la culture dans l'espace public, dans toutes les communes, même les plus petites. Je propose donc de laisser flotter le luxe communal dans son bassin historique de 1871 et de s'intéresser à son héritage qui, aujourd'hui, peut librement et légitimement s'enrichir des projets communards. Les héritiers. On retrouvera après la Commune et jusqu'à aujourd'hui chez des artistes, des artisans, des mouvements artistiques ou architecturaux, des philosophes, des économistes, des sociologues, que vous verrez bientôt, des références à ce luxe communal augmenté des grands principes de la Fédération des artistes de la Commune de Paris. Si le luxe communal de 1871 s'est rétrospectivement trouvé enrichi de ses principes, ses héritiers ont vraiment désormais toute légitimité de se l'approprier, de l'augmenter, de le réinventer, d'en fabriquer un nouvel outil d'exploration de l'art dans son articulation au social. Donc les grands héritiers, William Morris, c'est le premier. William Morris est un type extrêmement prolixe, dessinateur, écrivain, qui est le fondateur du mouvement. Là, il faut que je boive, désolé, je bafouille. Qui est le fondateur du mouvement Arts and Crafts et qui récuse, comme la Fédération des artistes, la distinction entre art majeur et art mineur. Il veut, donc, vous voyez, on est en 1880, disons. Il veut réhabiliter le travail manuel, rétablir l'union de la main et du cerveau. On va retomber dessus tout à l'heure sur cette notion qui, selon lui, caractérisait le Moyen-Âge. Sa revendication d'un art pour tous conduit Morris à un engagement politique en faveur d'une société égalitaire qui pourrait le mettre en œuvre. En 1877, il adhère à la cause socialiste, pas celle d'aujourd'hui naturellement, convaincu que l'art ne peut avoir de vraie vie dans les conditions de mercantilisme et de priorité au profit de l'époque. Sa critique du capitalisme stigmatise, je cite, « la réalisation de profits indépendants de la satisfaction des besoins humains ou de l'amélioration des conditions de vie, l'interchangeabilité de l'ouvrier dans la grande industrie, les compétences fragmentées et l'investissement personnel nié ». L'industrialisme, pour Maurice, produit des biens de piètre qualité et sans aucune autre utilité que de permettre l'accumulation de richesses pour les propriétaires des usines. Non. Nom de Dieu. Oh la vache, j'y arriverai jamais. Au gaspillage révélateur de la logique aberrante du capitalisme doit succéder une forme de décroissance impliquant le recentrage de la production autour des biens fondamentaux. La société dont rêve Maurice ignorerait la signification des mots riches et pauvres, le droit de propriété et les notions de loi, de légalité ou de nationalité. C'est une société libérée du poids d'un gouvernement. Elle serait fondée sur le partage plutôt que sur la concurrence, l'égalité plutôt que sur la domination, sur la beauté plutôt que sur l'artifice, sur la qualité plutôt que sur la profusion. Je vais donc faire un grand bond en avant. Après, je voulais vous parler du Bauhaus. Et je n'ai pas le temps. Vous lirez. Après, par contre, là, je vais vous parler de Vibri Fénot. Vibri Fénot est un jeune groupe, c'est un collectif rennais qui est né en 2017 pendant la loi Travail et qui revendique par tous les moyens, même artistiques, le luxe communal et notre programme. C'est un jeune groupe anard, plutôt, et qui est totalement passionnant. Par contre, j'avais beaucoup de choses à dire sur Vibri Fénot, et je ne sais absolument pas comment je vais faire. Voilà, eh bien, écoutez, vous irez voir, ils ont un site magnifique. Ils sont extrêmement actifs, ils sont extrêmement brillants, ils sont formidables. Allez les voir. Par contre, je vais essayer... Oui, alors... J'ai pas droit à un petit rame à cause du fait que j'ai parlé d'un autre truc avant. 3 minutes. D'accord, Hugues. Okay. Donc, je voulais vous parler de Matthew Crawford, mais vous irez voir Matthew Crawford vous-même. Matthew Crawford a écrit un bouquin qui s'appelle « L'éloge du carburateur ». Et en fait, c'est un philosophe, grand théoricien américain, qui lui revendique justement l'articulation entre la main et le cerveau. Il estime qu'on n'est pas intelligent qu'avec le cerveau, que la main est aussi une forme d'intelligence qu'il faut intégrer et articuler à celle du cerveau. Et donc, en fait, il a une pratique théorique extrêmement rigoureuse. Et à côté de ça, il a un atelier de réparation de moto. Après, des gens que vous connaissez mieux, donc je me sens moins coupable de ne pas en parler, Frédéric Lordon. Alors, Frédéric Lordon, pourquoi ? Parce qu'il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Pour un communisme luxueux ». Donc, il reprend, en fait, simplement le libellé du luxe communal pour développer, effectivement, tout un propos, en particulier sur le... Non, je ne peux pas. Le sociologue Razmik Kechayan, que vous connaissez probablement aussi, qui a revendiqué un communisme du luxe, toujours dans cette veine du luxe communal, augmenter plutôt des valeurs de la commune. Et donc là, vous connaissez, par contre, vous connaissez peut-être pas Aaron Bastani, que je vous recommande, ironiquement. Alors, Aaron Bastani, il revendique le communisme du luxe entièrement automatisé. Il combine la pensée marxiste et la notion de luxe, qu'il articule au développement d'une société de robots et de cerveaux artificiels permettant de remplacer la manœuvre humaine par des machines. Également, l'épuisement des ressources terrestres serait réglé par l'exploitation des ressources minérales des astéroïdes du système solaire. L'alimentation par des manipulations génétiques et la maladie par le séquençage du génome humain. Excuse-moi, c'est important. Une minute, conclusion. Alors, après, je voulais vous parler de Murray Bookchin, mais c'est raté. Quand même, très vite, la nuit du bien commun. Alors, les héritages un peu particuliers du luxe communal. La nuit du bien commun du célèbre Pierre-Édouard Sterrin. Bon, je vous consulte, je vous conseille la... Voilà. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Alors, Bookchin disait qu'une idée, alors à cause de voilà du la nuit du bien commun et puis alors oui quand même à Québec il y a un Royal Mount, un grand centre multifonctionnel audacieux avant-gardiste, c'est un centre commercial qui revendique la connectivité, la durabilité et le luxe inclusif. Roulez jeunesse. Voilà, donc moi je prétends que Murray Bookchin disait qu'une idée insuffisamment définie est aussi dangereuse qu'un dogme bien fermé. Il devient donc impératif de déterminer des définitions robustes et de dire clairement de quoi on parle. Il est nécessaire de redéfinir le luxe communal pour l'arrimer solidement à ses valeurs originelles, ce à quoi s'emploie activement Vibri Fénou à partir de ses manifestes et actions.
Merci à toi.
Je vous en ai fait la moitié.
On ne peut pas toujours tout dire.
Non.
Voilà.
Ça, c'est clair.
Tu as parlé des vieux, là. Mais tu restes là parce qu'il peut y avoir éventuellement un peu de questions.
Ah oui, des questions.
Donc,
pardon.
Profitez des questions éventuellement pour rajouter deux, trois petites choses que tu n'aurais pas pu dire autrement. Ce qui serait bien, c'est quelqu'un qui m'aide à faire passer le micro, parce que monsieur, j'en ai besoin. Alors, éventuellement, on en a un second, mais peut-être qu'on peut avoir un peu d'auto-organisation. Voilà. Pas trop de questions non plus. Vous en garderez pour l'après-midi aussi. Hein. Sachant qu'on a 10 petites minutes pour les questions. Donc, deux.
Oui, bonjour. Merci pour ce partage. Je me demandais d'ailleurs s'il était possible d'avoir les textes que vous avez partagés.
Les actes sont publiés.
C'est super.
Et ça coûte 10 euros et il y a le site de Christiane sur lequel vous pouvez avoir des compléments d'information de ce qu'on n'a pas pu dire.
Alors, je vous dis juste un petit truc pour répondre à votre question.
J'en ai une autre après. Mais...
D'accord. En fait, c'est que dans les actes, il n'y a pas tout le texte. Parce que quand je commence un truc, j'ai du mal à m'arrêter. Et du coup, il y a la moitié du texte et avec un lien qui va sur mon site où il y a tout le texte. Je fais ça tout le temps. Voilà. Alors, vas-y, excuse-moi.
Alors, moi, ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est comment la notion de luxe communal, elle peut se mettre en pratique aujourd'hui de façon contemporaine dans les espaces alternatifs, dans les espaces anarchistes, etc. Moi, je suis journaliste et à la fois militante... je dirais écologiste, anarchiste, autonome, enfin, ça dépend des espaces dans lesquels je lutte. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, enfin, en tout cas, moi, dans les espaces où je vais, il y a beaucoup de mise en pratique, justement, du luxe communal. Comment on le repense aujourd'hui avec la question aussi du décolonialisme, du dérèglement climatique, de l'extinction de la biodiversité, etc., qui, en fait, du coup, se différencie peut-être de la Belle Époque. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que la Fédération anarchiste ou vous ou d'autres penseureuses aujourd'hui essayent de voir comment ça peut s'imbriquer avec les enjeux contemporains ?
Dans les recherches que j'ai faites, moi, le seul groupe que j'ai trouvé extrêmement pertinent, cohérent, c'est Vibri Fénou. Franchement.
Donc les Bretons de Rennes.
Hein ?
Les Bretons de Rennes.
Les Bretons de Rennes. Ils sont totalement formidables. Je suis en train de préparer un interview avec eux parce qu'en fait, ils avaient un peu laissé tomber parce qu'ils ont tous... c'est pas des artistes. Et ils revendiquent justement un art qui soit pas forcément professionnel, comme le Bauhaus d'ailleurs. Et en fait, ils ont vraiment cette particularité d'articuler une réflexion théorique sur le luxe communal au niveau politique, au niveau esthétique, avec une pratique. Et moi, c'est ce qui, je dois l'avouer, qui me gonfle un peu dans les derniers exemples que j'ai pris, c'est qu'effectivement, c'est des réflexions purement théoriques et la main n'y est pas. Et ça, c'est pas possible. C'est vraiment une articulation entre la main et le cerveau. Je connais qu'eux. Je pourrais pas vous dire plus. Par contre, ils ont un site, je pourrais vous donner le lien et ils sont vraiment épatants, quoi.
Voilà, une autre question, peut-être ? Non ? Pas d'autres questions ? C'est une question d'Hélène.
Juste pour vous dire qu'il y a bien les actes d'aujourd'hui qui sont sur la table de presse et qu'il y a le livre de Christiane Carlu aussi. Hein. Donc, vous pourrez vous documenter davantage.
Les actes du colloque, on les vend 23 euros prix de souscription au lieu de 29 euros prix public.
Pas du colloque ici. Le colloque ici, c'est 10 euros.
Oui, mais nous, on est cher.
Et vous êtes cher. Vous êtes presque Loire et Cher, alors.
Non, excuse-moi.
Pas loin.
C'est pas vraiment le meilleur.
Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la suite, sachant qu'on a une toute petite pause musicale en attendant, parce qu'il y a des réglages à faire. Et il y a une petite modification dans le programme, puisque nous devions avoir Nicolas Eprendre autour de Reclus et la peinture. Nicolas est là. Nous allons parler de reclus et de la peinture, ne vous inquiétez pas. Mais il y a une petite permutation parce qu'il y a Raphaël qui est là, qui va parler de littérature ouvrière et paysanne et qui a un impératif en début d'après-midi. Donc on fait juste une petite permutation. Donc tu peux peut-être t'installer, Raphaël, si tu le veux bien. Voilà. Hein ? J'entends pas. Dis-moi. Ben, si tu crois, oui, la pause, mais une petite pause rapidos. Donc on fait une petite pause parce que les propos sont transférés sur Radio Libertaire, qui toute la journée eh bien, va diffuser le colloque auquel vous participez. Hein, c'est-à-dire qu'il y a à la fois vous qui êtes là présent physiquement, et c'est bien qu'il y ait des gens qui soient là physiquement, on ne peut pas tout faire à distance, mais il y a aussi la possibilité d'écouter en direct, sachant que pour ceux qui voudront réécouter, ce sera sur le site de Radio Libertaire en podcast. Donc vous voyez, il y a de quoi très largement s'alimenter.